Chapitre 12. Je n'étais jamais monté dans une voiture de police. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Des sièges en plastique dur? Une odeur fétide de vomi et d'urine? Comme lors de mon passage au commissariat de Boston, la réalité fut en deçà de mes attentes. La Kronvik bleu foncé ressemblait à n'importe quelle quatre portes. L'intérieur était tout aussi banal. Siège recouvert d'un tissu bleu uni, moquette bleu marine. Le tableau de bord avait une radio bidirectionnelle et quelques interrupteurs à bascule supplémentaire, mais ça s'arrêtait là. Le véhicule semblait avoir été nettoyé récemment. Sol aspiré de frais, atmosphère parfumée aux fébraises. Une petite attention pour moi? Je ne savais pas si j'étais censée remercier. Je m'attachais sur le siège passager. J'étais nerveuse, mes mains tremblaient. Je dus m'y reprendre à trois fois pour enclencher la languette métallique. Le capitaine Dodge n'essaya pas de m'aider et ne fit aucun commentaire. Je lui en fus plus reconnaissante que de la propreté désodorisée de la voiture. Depuis son départ, j'avais passé le temps en essayant de terminer une cantonnière compliquée pour une cliente de Back Bay. Mais en fait, j'avais surtout tenu le tissu de soie moiré sous l'aiguille de ma machine à coudre, le pied à côté de la pédale, les yeux rivés sur la télé. Il était facile de trouver des reportages sur l'affaire de Matapan. Toutes les grandes chaînes d'infos la couvraient en continu. Peu, malheureusement, avait quoi que ce soit de nouveau à dire. On avait confirmation que six corps avaient été découverts dans une cavité souterraine située dans le parc de l'ancien asile psychiatrique. On pensait que les corps étaient ceux de Fillette et qu'ils se trouvaient sans doute dans la cavité depuis un moment. À l'heure actuelle, la police suivait plusieurs pistes d'investigation. Est-ce que c'était ça que j'étais? Une piste d'investigation? À partir de là, les reportages se lançaient rapidement dans les spéculations les plus folles. Pas un mot du médaillon, ni de Dory, ni de Richard Umbrio. J'avais abandonné ma couture pour chercher Umbrio sur Internet. J'avais trouvé, sous le titre « Fusillade mortelle à Back Bay », un article qui racontait comment Catherine Gagnon, rescapée d'une fusillade policière nocturne, avait déjà connu la tragédie puisque dans son enfance, elle avait été détenue en captivité par Richard Umbrio, pédophile avéré et délivré par des chasseurs peu avant Thanksgiving. L'histoire d'Umbrio, cependant, n'était qu'un encadré. L'article principal expliquait comment Jimmy Gagnon, mari de Catherine et fils unique d'un riche juge de Boston, avait été descendu par un tireur d'élite au cours d'une prise d'otage tragique. Le policier qui lui avait donné la mort, Robert G. Dodge. Des poursuites avaient été engagées contre l'officier Bobby Dodge par le père de la victime, le juge Gagnon, qui prétendait qu'il avait comploté avec Catherine Gagnon pour assassiner son mari. Bon, voilà un petit détail dont ni le capitaine Dodge ni le commandant Warren n'avaient jugé bon de m'informer. Au cas où je ne serais pas encore assez choquée, je trouvais ensuite un autre article, daté de quelques jours plus tard. « Bain de sang dans une suite d'hôtels ». Trois personnes étaient mortes et une quatrième se trouvait dans un état critique après qu'un détenu récemment remis en liberté conditionnelle, Richard Umbrio, avait pris d'assaut un grand hôtel dans le centre-ville de Boston. Umbrio avait tué deux personnes, dont une à main nue, avant d'être abattu par Catherine Gagnon avec l'aide d'un officier de la police d'État du Massachusetts, Robert G. Dodge. De plus en plus intéressant. Assise à côté du capitaine Dodge, je ne disais pas un mot. Au contraire, je gardais précieusement de côté mes petites pépites de vérité. Bobby s'était servi de mon passé, à mon tour d'en savoir un peu sur lui. Je le regardais à la dérobée, assis à côté de moi. Il conduisait la main droite posée avec décontraction sur le volant, le coude gauche en appui sur la portière. Travailler dans la police l'avait de toute évidence immunisé contre la circulation de Boston. Il zigzaguait dans les petites rues étroites et contournait les voitures garées en triple file comme un pilote de stock-car pendant son tour de chauffe. À ce rythme-là, on serait à Matapan en moins de 15 minutes. J'ignorais si je serais prête d'ici là. Je me détournais, regardais par la fenêtre. Si le silence ne le gênait pas, moi non plus. Je ne savais pas pourquoi je tenais tant à aller voir la scène de crime, mais j'y tenais. J'avais lu le récit des derniers jours de Dory, j'avais regardé mon médaillon qu'elle portait si fièrement autour du cou, et alors mon cerveau s'était rempli de trop de questions, du genre de celles que ses parents se posaient sans doute toutes les nuits depuis 25 ans. Avait-elle appelé au secours quand on l'avait enlevée dans le jardin devant la maison de ses grands-parents et balancée dans une camionnette blanche? Avait-elle lutté contre son ravisseur? Avait-elle essayé d'ouvrir les portes et découvert le véritable inconvénient de la sécurité enfant? L'homme lui avait-il parlé? L'avait-il interrogé sur le médaillon, accusé de l'avoir volé à son ami? L'avait-elle supplié de le reprendre? Lui avait-elle demandé quand il avait commencé d'arrêter, s'il vous plaît, et d'enlever plutôt Annabelle Granger? Sincèrement, je n'avais pas pensé à Dory Petracelli en 25 ans. C'était mortifiant. Abominable de penser à présent qu'elle était morte à ma place. La voiture ralentit. Je clignai rapidement des paupières, honteuse de m'apercevoir que j'avais les yeux pleins de larmes. Aussi vite que possible, je m'essuyai le visage du dos de la main. Le capitaine Dodge se rangea sur le côté. Je ne reconnaissais pas les lieux. Je voyais une rue de vieux immeubles de 3 étages, dont la plupart auraient eu besoin d'un ravalement, voire d'un peu de vrai gazon dans leur jardin. Le quartier semblait vétuste, miteux. Je ne comprenais pas. « Voilà ce qui se passe, » dit Dodge en se tournant vers moi. « Le site n'a que 2 entrées. Nous, la police, les avons fort intelligemment bouclées par un cordon de sécurité pour préserver la scène de crime. Malheureusement, les médias campent devant ces 2 entrées et attendent désespérément n'importe quel commentaire ou image à passer dans le journal. J'imagine que vous ne voulez pas passer dans le journal. » L'idée me terrifia au point de me laisser sans voix. « Bon, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Alors ce n'est pas très glamour, mais ça fera l'affaire. » Il désigna la banquette arrière, où j'aperçus une couverture pliée, à peu près de la même teinte que le tissu des sièges. « Vous vous allongez. Je vous cache sous la couverture. Avec un peu de chance, on traversera les hordes en furie tellement vite que tout le monde n'y verra que du feu. Une fois qu'on sera dans le parc, vous pourrez vous rasseoir. L'aviation civile a accepté de restreindre l'espace aérien, donc plus personne n'a le droit de faire mumuse avec son hélico. » Il ouvrit sa portière, descendit. Dans un état second, je passais sur la banquette arrière, m'allongeais, les genoux repliés, les bras serrés sur la poitrine. Il déplia la couverture avec un claquement sec et la posa sur moi. Encore quelques ajustements pour recouvrir mes pieds, cacher le haut de ma tête. « Ça va ?» demanda le capitaine Dodge. J'acquiesçai. La portière arrière claqua, je l'entendis faire le tour, se rasseoir au volant, démarrer la voiture. Je ne pouvais plus rien voir, seulement entendre le bruit de l'asphalte qui ronflait sous les pneus. Seulement sentir le mélange nauséabond de gaz d'échappement et de désodorisant. Je fermai les yeux très fort, et à cet instant je sus. Je ressentis exactement ce que Dory avait ressenti, jeté dans un véhicule inconnu, dissimulé à la vue des gens. Je compris comment elle avait dû se recroqueviller toujours davantage, fermer les yeux, souhaiter que son propre corps disparaisse. Je savais qu'elle avait murmuré le Notre Père parce que c'était ce que nous disions le soir quand je dormais chez elle. Et je savais qu'elle avait pleuré en pensant à sa maman qui sentait toujours bon la lavande quand elle nous donnait notre baiser du soir. Sous la couverture, je me couvris le visage avec mes mains. Je pleurais, sans faire le moindre bruit, parce que c'est comme ça qu'on apprend à pleurer quand on passe sa vie en cavale. La voiture ralentit à nouveau. La vitre s'abaissa. J'entendis le capitaine Dodge se présenter, tendre sa plaque. Puis, en bruit de fond, un grondement de voix qui criait pour attirer l'attention, poser une question, réclamer un commentaire. La vitre remonta, la voiture redémarra, et le moteur rétrograda lorsque la voiture gravit péniblement une côte. « Plus moyen de reculer, » dit le capitaine Dodge. Sous la couverture, je m'essuyai à nouveau le visage. « Pour Dory, » me dis-je. « Pour Dory. » Mais surtout, je pensais à mon père et à la haine que j'avais pour lui. Dodge dut m'ouvrir pour que je puisse descendre. Finalement, les portières arrière des voitures de police ont tout de même une légère différence avec celles des voitures ordinaires. Elles ne s'ouvrent que de l'extérieur. Tandis qu'il m'aidait, Dodge, le visage impénétrable, fixait de ses yeux gris mi-clos un point juste au-dessus de mon épaule droite. Je suivis son regard jusqu'à une 2e voiture, déjà garée sous la brise squelettique d'un immense chêne. Le commandant Warren se tenait à côté, voûté dans son blouson en cuir couleur caramel, l'air aussi contrarié que dans mon souvenir. « Elle est responsable de l'enquête, » murmura le capitaine Dodge pour mes seules oreilles. « Difficile de visiter la scène de crime sans sa permission. Ne vous inquiétez pas, c'est seulement après moi qu'elle en a. Vous faites juste une cible facile. » Vexée d'être qualifiée de cible, je me redressai, bombai le torse, bien campé sur mes pieds. Dodge eut un signe de tête approbateur et je me demandais immédiatement si cela n'avait pas été son but. L'idée me déstabilisa davantage que l'air perpétuellement revêche du commandant Warren. Dodge s'approcha d'elle. Je suivis dans son sillage, les bras croisés pour me réchauffer. L'après-midi était gris et froid, la saison où les feuillages s'embrasent, de loin la plus belle en Nouvelle-Angleterre, avait connu son apogée 2 semaines plus tôt. À présent, les rouges éclatants, les oranges lumineux et les jaunes joyeux avaient fait place à des bruns boueux et à des gris mornes. Il flottait dans l'air une odeur d'humidité et de moisie. Je reniflai à nouveau, sentis un léger relent de décomposition. J'avais trouvé sur Internet des informations sur le site de l'hôpital psychiatrique. Je savais qu'il avait été fondé sous le nom d'asile pour aliénés de Boston en 1839, avant de devenir l'hôpital public de Boston en 1908. À l'origine, l'établissement accueillait quelques centaines de patients et fonctionnait davantage comme une ferme en autarcie que comme un modèle pour vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais en 1950, le nombre de patients avait grossi jusqu'à dépasser les 3000 et l'établissement s'était vu adjoindre deux pavillons de haute sécurité et une immense clôture en fer forgé. L'endroit n'était plus aussi tranquille. La désinstitutionnalisation psychiatrique avait finalement provoqué la fermeture de l'hôpital en 1980, au grand soulagement du voisinage. Je m'attendais à ressentir un frisson d'épouvante en pénétrant dans l'enceinte. Je pensais que mes bras se couvriraient peut-être de chair de poule quand je percevrais la présence persistante du mal. J'aurais devant moi un édifice à l'allure sinistre et fantastique, comme cet hôpital psychiatrique désaffecté qui domine encore la I-95 à Danvers, et j'apercevrais, juste un instant, un visage pâle et hagard posté derrière une vitre brisée. En réalité, de là où j'étais, je ne voyais pas du tout les deux bâtiments encore debout. Au lieu de cela, j'avais devant moi un bosquet d'arbrisseaux enchevêtrés, surmonté d'un énorme chêne centenaire. Le commandant Warren prit un petit sentier entre les arbustes et nous arrivâmes dans une plaine de carex desséchés qui renvoyait des reflets d'or et d'argent sous les ondulations du vent. La vue était ravissante. On se serait cru en randonnée en pleine nature plutôt qu'à proximité d'une scène de crime. Le sol se raffermit. Une clairière apparut à notre droite. Je vis ce qui semblait être une sorte de décharge. Warren s'arrêta net et désigna le monceau de débris envahi par la végétation. « Le botaniste a commencé à mettre son nez là-dedans », expliqua-t-elle à Dodge. « Il a trouvé les restes d'une étagère métallique comme celle que nous avons vue dans la cavité. Apparemment, l'hôpital en avait beaucoup de ce modèle. J'ai un agent qui passe les archives photos en revue. »
« Tu penses que le matériel venait de l'hôpital lui-même ?»«
Je ne sais pas, mais les sacs plastiques transparents... » « À ce qu'il paraît, ils étaient couramment employés dans les établissements publics pendant les années 70. » Le commandant Warren reprit son chemin et le capitaine Dodge lui emboîta le pas. Je fermai la marche, cherchant à comprendre leur dialogue. Soudain, nous franchîmes un autre bosquet, débouchâmes dans une clairière et un auvent bleu vif se dressa devant moi. Pour la première fois, je m'arrêtai. Est-ce que c'était mon imagination ou bien était-ce plus silencieux ici? Pas de pépiment d'oiseaux, pas de bruissement de feuilles ni de cris d'écureuil. Je ne sentais plus la brise, tout semblait figé, suspendu. Le commandant Warren marchait devant, avec des mouvements décidés. Elle n'avait pas envie d'être là, réalisais-je alors. Et cela commença à me perturber. Quel genre de scène de crime fiche les jetons même aux flics? Sous l'auvent bleu se trouvaient deux grands bacs en plastique. Warren en ôta les couvercles gris et révéla des combinaisons blanches en tissu fin, semblables à du papier. Je reconnus les combinaisons en Tyvek que j'avais vues dans toutes les émissions relatant des affaires réelles sur Court TV. Même si techniquement les scientifiques ont déjà fait les relevés, on veut que la scène reste aussi intacte que possible, m'expliqua-t-elle en me tendant une combinaison, puis une autre au capitaine Dodge. Dans ce genre de situation, on ne sait jamais quels nouveaux experts pourraient apporter quelque chose, alors il faut se tenir prêt. Elle enfila prestement sa propre combinaison. Je n'arrivais pas à trouver où étaient les bras et où étaient les jambes. Il fallut que le capitaine Dodge m'aide. Ils passèrent aux couvre-chaussures, puis aux charlottes. Le temps que je comprenne tout, il m'attendait depuis des lustres et j'étais rouge comme une pivoine. Warren nous conduisit vers le fond de l'auvent. Elle s'arrêta au bord d'un trou dans le sol. Je ne voyais rien. Le fond était plongé dans l'obscurité la plus complète. Elle se tourna vers moi, me jaugea tranquillement de ses yeux bleus. « Vous comprenez que vous ne pourrez pas parler de ce que vous verrez en bas, » me dit-elle sèchement. « Vous ne pourrez pas en parler à votre voisine, à votre collègue, à votre coiffeur. C'est strictement top secret. »«
Oui. » »«
Vous n'êtes pas autorisé à prendre de photos, à tracer des plans. » »«
Je sais. » »«
Par ailleurs, » du fait que vous visitez cette scène, vous pourrez être amené à témoigner au cours du procès. Votre nom apparaît désormais sur le registre de la scène de crime, ce qui vous expose à être interrogé à la fois par l'accusation et par la défense.
D'accord, répondis-je, même si je n'y avais pas vraiment songé.
Procès? Interrogatoire? Je décidai de m'en inquiéter plus tard. Et en échange de cette visite guidée, vous acceptez de nous accompagner en Arizona demain matin.
Vous rencontrerez Catherine Gagnon. Vous répondrez à nos questions dans toute la mesure de vos possibilités.
Oui, je suis d'accord, répondis-je avec brusquerie maintenant. Mon impatience et ma nervosité grandissaient à mesure que nous restions là.
Le commandant Warren sortit une lampe torche.
« Je passe la première, » dit-elle.
« J'allumerai les lampes. Quand vous verrez ça, vous saurez que c'est à vous de descendre. »
Elle me lança un dernier coup d'œil évaluateur.
Je lui rendis l'appareil, même si je savais que mon regard n'était pas aussi imperturbable que le sien.
Je m'étais trompée sur le commandant Warren. Si nous nous étions affrontés sur un ring d'entraînement, jamais je ne l'aurais envoyé au tapis. J'avais beau être plus jeune, plus rapide, plus forte physiquement. Elle, c'était une dure.
Jusqu'à la moelle, une dure capable de descendre volontairement dans un charnier plongé dans le noir. Mon père l'aurait adorée.
Le sommet de son crâne disparut en bas. Un instant plus tard, une lueur pâle jaillit du trou.
« Dernière chance, » murmura le capitaine Dodge à mon oreille.
J'attrapai le haut de l'échelle et ne m'autorisai plus à penser.